Bonjour tout le monde, bienvenue sur Pelimanga. Et oui, c'est le retour des longs formats. Je vous avais abandonné au mois de juin pour profiter un peu des vacances d'été. Et bien là, c'est parti pour la saison 2. Et qui dit saison 2 dit nouvel invité, dit nouveau manga bien sûr, mais aussi le nouvel invité va être la marraine de cette saison 2. Et mon invité pour parler aujourd'hui de City Hunter, ce sera Belle Ambule. Comment ça va, Belle ?
Bonjour Peli, merci de m'avoir associé à ton podcast. Je suis ravie d'être là et surtout de parler de mon petit chouchou, Ryo Saeba.
Ah là là là, c'est sûr que c'est le chouchou de tout le monde, effectivement. C'est vrai qu'il a, grandement marqué la culture manga en France, au Japon, mais en France aussi. Avant de commencer ce podcast, je vais faire un petit disclaimer et une petite pensée. Et oui, une petite pensée pour les personnes qui ont repris le travail, qui ne sont plus en vacances en ce mois d'août et qui, voilà, qui doivent reprendre le travail dans la chaleur parisienne. La souffrance. Tout à fait. Voilà. C'était un petit disclaimer, voilà, pour parler des personnes qui ont repris le boulot, malheureusement. Mais vous êtes tous en ligne avec nous et vous nous écoutez, que vous ayez repris le travail ou non, ou que vous soyez sur une plage. Donc, comme vous l'avez deviné, on va parler de City Hunter. Mais avant toute chose, Belle, on va parler de ton travail sur YouTube, sur TikTok. Explique-nous un peu ce que tu fais.
Oui, avec plaisir. Alors, ça fait 2 ans que je suis dans le manga game. J'ai commencé donc par YouTube. On était à Instagram parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est un petit peu notre base de travail. Bien sûr, les chroniques écrites, les stories, etc., les réels, ben, je les renvoie aussi là-bas. Donc, j'ai une base YouTube. C'est un format qui est environ de 8 à 12 minutes. Quelquefois, il m'est arrivé d'aller jusqu'à 17, 20 minutes, mais en général, c'est relativement court. Mais j'aime bien faire quand même le tour de mon sujet et prendre le temps. Ce qui me caractérise, c'est que j'aime bien compter. En fait, je me considère un petit peu comme une conteuse et je veux prendre le temps de raconter le manga que j'ai envie de traiter, les personnages, la genèse, l'auteur. Ça me fait plaisir, en fait, de partager ce moment avec les spectateurs et de partager ma passion. Donc ça, c'est une fois par mois sur YouTube. En principe, il y a aussi des petits hors-séries. Parfois, quand j'ai le courage, ce sont des invitations, des interviews de mangaka, souvent. Ou alors, c'est ce que j'appelle... alors, attends, ça y est, c'est la fatigue qui se fait sentir. Pourtant, les vacances sont pas loin. Oui, c'est le Graillambule. Graillambule, c'est un hors-série sur la cuisine aussi j'ai fait. Et alors, c'est issu des animés ou des mangas qui parlent de cuisine ou moins qui ont un plat emblématique, genre Food Wars, etc.
Ah, c'est génial, voilà.
C'est sympa. J'essaye de m'y coller au plus près. Et puis, ça fait un petit hors-série sympa en plus. Et en dehors de YouTube, je suis sur TikTok où j'ai un format d'environ 1 minute pour parler d'un manga. J'essaye de tenir les 1 minute. C'est pas facile parce que c'est pareil. J'ai envie d'en parler, mais bon, il faut bien respecter le format. Et puis surtout, là pour le coup, autant sur YouTube, c'est vraiment des coups de cœur, ou alors maintenant ça marche plus comme par des thématiques. Autant sur TikTok, j'essaye vraiment de sortir de mes zones de confort, d'aller lire des mangas vers lesquels j'irais pas forcément. Et donc vraiment, c'est très très large au niveau du spectre de genre pour les lectures manga.
Effectivement, ça se sent en tout cas que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, en tout cas on sent que tu es une passionnée. Ça se ressent en tout cas dans les mangas que tu décris, et ça c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller la suivre sur TikTok, sur YouTube, mais aussi sur Instagram, hein, parce qu'il y a aussi, comme tu disais, des petits formats écrits sur Instagram qui sont très intéressants, et les réels aussi que tu partages avec TikTok, il me semble.
C'est ça, TikTok et Instagram, on peut les trouver sur les mêmes réels, mais on peut les trouver sur les deux plateformes.
Et je comprends ta souffrance sur TikTok de devoir parler d'un manga avec un minutage particulier, parce qu'effectivement, c'est pas évident. Moi-même, souvent, j'ai envie d'en dire plus, mais malheureusement, le décomptage fait que derrière, on ne peut pas parler plus de combien, 3 minutes, il me semble.
Ouais, c'est ça. TikTok, non, hein. Mais même 10 minutes, 3 minutes sur Instagram, 10 minutes sur TikTok, ça existe. Voilà. Mais je pense que je perdrai les 3/4 de mes auditeurs ou spectateurs entre-temps. J'ai même les collègues, certains de nos collègues, qui se sont mis à faire 30 secondes parce que voilà, je les admire parce que j'aurais beaucoup de mal, j'y arrive pas.
Tout à fait, avec les chroniques de Maïmo qui a lancé son nouveau format
par exemple,
sur 30 secondes un manga, effectivement, qui est très intéressant, mais très compliqué surtout.
Ouais. C'est, tout est dans le montage en fait. Il y a Pseudocarcinus aussi qui le fait, et chapeau parce que j'y arrive pas, j'y arrive pas du tout.
C'est très compliqué. Avant de parler du manga City Hunter et de son auteur Tsukasa Ojo, je vais te demander quelle est ta consommation habituelle de manga. Qu'est-ce que tu aimes dans le manga ?
Alors, ma consommation habituelle, elle est un petit peu tributaire de mon travail sur Instagram, parce que j'avais proposé à ma communauté de faire une story, une chronique, tu vois, d'une minute, enfin en lecture, même pas quelques secondes finalement, mais c'est parce que maintenant, avec ma commu, ils savent que ça tourne autour d'une minute, même si c'est pas vraiment le cas. C'est juste histoire de dire que c'est un instantané quelque part. En quelques secondes, ils peuvent lire une chronique qui se lit, voilà, le temps d'une story. Et donc, je leur propose un petit résumé, des petites impressions avec la cover, et après, quelques images choisies du manga. Et donc, ça, c'est tous les jours, normalement.
D'accord. Et en termes de...
Donc, je lis tous les jours.
Oui, donc c'est pas mal ça. Et en termes de style, t'as pas de style particulier, shonen, seinen,
shoujo? Alors évidemment, vu mon âge canonique, je vais naturellement vers du josei ou du seinen, mais il m'arrive de trouver des shoujo charmants ou des shonen vraiment bien fichus. Donc de toute façon, je te dis qu'en général, je ne m'arrête pas au genre, il faut juste un coup de cœur en fait pour l'histoire, tout simplement. Et puis quelquefois, je fais des bonnes découvertes également.
Et ne t'inquiète pas, l'âge c'est juste dans la tête, hein. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là, tant qu'il y a la passion, c'est le plus important. On va donc commencer à rentrer dans le vif du sujet avec ce podcast dédié à City Hunter. City Hunter, de base, on suit les aventures donc de Ryo Saeba, qui est surnommé City Hunter, un homme qui agit en tant que détective privé à Tokyo. Il résout donc des affaires complexes, tout en ayant un faible pour les belles femmes. Cette série a le don de mélanger habilement de l'action, du suspense, de l'humour, souvent même de l'humour grivois qu'on n'a pas forcément ressenti dans la série, dans la version française de Nicky Larson, mais on y reviendra un peu plus tard. Comme je vous le disais, il y a une série animée, donc City Hunter, qui a été diffusée en France dans les années 90 au Club Dorothée, et qui est même aujourd'hui encore diffusée sur le canal de la TNT. Il s'agit bien sûr de Nicky Larson. Et en France, Nicky Larson, c'est connu par beaucoup de personnes, mais aussi surtout pour son générique, qui est vraiment rentré dans la culture populaire. On écoute tout de suite ce générique, générique de Jean-Paul Césari. Donc voilà ce générique donc de Jean-Paul Césari, donc qui a été plutôt connu, voire même parfois connu des personnes qui n'avaient jamais vu le dessin animé. C'est vrai que la musique est plutôt sympa, ça fait très années 80-90, on reste vraiment dans le domaine des génériques comme ça qui ont bercé un peu, moi, mon enfance personnellement. Ouais. C'est vrai que c'est le genre de petit générique sympa à écouter, un peu comme celui de DBZ.
Ouais, c'est Pepsi, et puis inconsciemment j'ai associé la voix de Jean-Paul un petit peu à Nicky Larson finalement. Je trouvais que sa voix collait bien à l'âge du personnage, un petit peu le l'esprit, le caractère assez frondeur finalement dans son champ et assez mâle aussi. Donc il est très sympa. Moi évidemment je suis une fan de la VO, mais j'ai une tendresse particulière pour la version française, que d'aucuns diraient qu'elle est catastrophique, mais qu'est-ce qu'on a pu rire sur cette version française, et finalement tout à fait charmante et touchante. Et voilà, chacune des deux versions a ses avantages.
Alors, en faisant des recherches pour ce podcast et pour ce générique surtout, moi j'ai toujours cru que c'était Bernard Minet qui l'avait chanté.
Ah oui, non, il n'a pas la même voix. Hein. Ouais, voilà. Minet, il est encore autre chose.
J'étais persuadé, pour moi, les génériques des mangas VF des années 80-90, c'est Bernard Minet, tout de suite.
Mais parce que c'est normal, parce que Dorothée, en fait, les avait employés, les musclés, par exemple, pour tout ce qui est, tu sais, Power Rangers et autres, dans cet esprit-là. Et ils avaient fait la bande-son. Et puis, oui, c'est normal que tu aies associé aussi également. Et en tout cas, Jean-Paul, parce que j'ai écouté nos collègues de PCF Manga qui faisaient un petit peu leur retour sur la Japan Expo. Ils avaient pu assister à la conférence de Tsukasa Ojo, qui était notre invité spécial à la Japan. Et finalement, Jean-Paul Césari était bien là à la fin de la conférence et tout le monde était debout, alors qu'on leur disait de s'asseoir, mais debout évidemment pour célébrer tout ce pan de notre enfance et vraiment cette culture pop. Et en fait, finalement, il est tout à fait fidèle et il reste toujours très enthousiaste cette BO.
Mais c'est ça qui est formidable dans ces mangas qui étaient sur le Club Dorothée et qui maintenant font un peu office de, bon, certains diraient série B, d'autres diraient un peu nanar, mais nous on a apprécié ça. Et dans les conventions style Japan Expo et tout, dès qu'il y a un chanteur de cette époque-là ou même des auteurs de cette époque-là, et ben tout de suite à chaque fois ça fait des gros mouvements de foule. Et c'est vrai que c'est ça qui c'est beau de se dire que quasiment plus de 20 ans après, ben c'est toujours aussi bien.
Oui, tout à fait, mais je pense que c'est parce que la qualité était également présente, et puis voilà, une certaine nostalgie, mais c'est très bien comme ça.
Ah, oui. Alors, tu savais que le personnage principal donc, a été renommé Nicky Larson, c'était pour des raisons de censure en France, parce que le personnage de Ryo Saeba, il avait un comportement vraiment macho, et le contenu du manga était beaucoup pour adultes, ce qui fait que la version française a vraiment édulcoré le plus possible la version papier, et ce qui fait que ça nous donne donc un personnage qui s'appelle Nicky Larson, qui a un nom un peu plus américanisé, voilà. Mais il y a énormément de censures qui ont été faites, alors que déjà donc, dans la série, on s'aperçoit que c'est un homme qui aime les femmes, un petit côté pervers, voilà, on s'en aperçoit déjà dans la série, mais dans le manga, c'est encore plus décuplé.
Oui, c'est notre private joke avec mon mari. Est-ce que tu veux aller dans un restaurant végétarien ? Et je dis oui ou non, ça dépend des fois. Donc oui, évidemment, c'était une référence au Love Hotel et les enfants ne pouvaient pas entendre ça. Et quand Nikki disait ça à une belle jeune femme, c'était évidemment pour l'inviter à un Love Hotel. Donc oui, ça faisait partie de la censure.
Voilà, effectivement, c'est vrai que c'est assez impressionnant, parce que moi, j'avais connu donc la version Nicky Larson donc avec la série. J'ai lu le manga donc avec la superbe édition qui a été sortie par la superbe réédition pardon qui a été sortie par Panini Manga. Donc je me suis lancé totalement dans la lecture du manga. J'avais lu, je crois, sur l'édition qui était sortie chez J'ai lu, j'avais dû lire les deux premiers tomes lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Du coup, j'ai profité de cette réédition de Panini pour pouvoir me les prendre et les savourer entièrement. Et c'est vrai qu'effectivement, de page en page, on se dit, bordel, ça s'arrête jamais au final. Et je crois que c'est vers le tome 4 ou 5 où j'ai eu un... Alors, je vais pas dire un dégoût du personnage, mais à un moment, même moi qui pourtant... J'ai un humour assez large, voilà, j'aime bien ce genre d'humour un peu grivois, un peu beauf, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'à un moment, on dit, bon, oh là là, ça commence à faire lourd un peu.
Mais en fait, c'est une image qui se donne, en fait, Ryo,
oui,
parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et, et en fait, en faisant le bel âtre comme ça, alors oui, bien sûr, il est intéressé par les femmes, mais c'est une façon d'être. C'est pas vraiment ce qu'il est, finalement. D'ailleurs, de toute façon, comme on le dira certainement tout à l'heure, il n'arrive jamais à pécho. Hein, ça, c'est une règle d'or. Et puis finalement, est-ce que tu me permets quand même de le dire que Laura est vraiment une femme importante dans sa vie. Donc,
oui.
Voilà, c'est ton kaori en japonais. Et finalement, c'est vraiment la femme importante parmi toutes les autres, quoi qu'il arrive.
Oui, parce que c'est elle en même temps qui arrive à le, entre guillemets, le canaliser, l'arrêter dès qu'il est amoureux d'une femme, dès qu'il va sauter sur une femme tel un pervers. Elle est là toujours avec le fameux marteau de 100 hommes.
La massue,
ce fameux marteau qui était d'ailleurs à la Japan Expo pour l'expo sur Ojo. La massue qui était. J'ai regretté de ne pas y aller juste pour une photo avec cette massue, ça aurait pu être excellent. Il y a des super photos de couple à faire avec cette massue quand même.
Exactement, c'est vrai que c'est très très cool. Et il y avait aussi le café reconstitué de Katsai, c'était super sympa aussi.
Tout à fait, c'est vrai que l'exposition avait été sympa, j'ai eu des retours qui étaient assez positifs sur cette exposition. Donc c'est vrai qu'encore une fois, la Japan Expo a fait les choses bien et c'est bien qu'ils mettent en avant ce genre de contenu aussi pour mettre en avant l'auteur bien sûr de cette série, même pour toutes ces séries en général. Alors, j'ai oublié de te poser cette question au tout début, on est parti directement sur le sujet, mais toi, comment est-ce que tu as connu City Hunter? Sous quel format?
Je l'ai connu grâce à mon mari, parce que ça a été une des premières séries manga qu'il a acheté avec Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Et c'est vraiment les deux séries qu'il avait commencé. Je crois que finalement, il n'en a pas racheté depuis, tu vois. Il est plutôt parti sur la BD. Mais elle reste chère à son cœur et il continue de les lire et tous les deux, on se tape des barres sur City Hunter. Tu me verrais lire un City Hunter, mais tu me reconnaîtrais pas. Je pleure de rire du début jusqu'à la fin et puis je me régale. Moi, j'adore. Mais je pense que je suis comme une maman. Je suis, vis-à-vis de Rio, je suis ou une grande sœur. Je suis beaucoup trop permissive avec lui. Je lui trouve plein de circonstances atténuantes.
Ouais. Oui, en quelque sorte, c'est vrai qu'on peut lui trouver des circonstances atténuantes. Effectivement, c'est vrai que on le prend un peu comme un bon gars. On sait très bien que oui, même s'il a cette pensée-là, et plusieurs fois dans le manga même et même dans la série, on le voit effectivement avoir ce côté un peu pervers, mais d'un côté, juste après, avoir cette lucidité, ce sérieux qui va faire qu'il va réussir à sauver ces jeunes femmes-là, et on se dit. Il aura toujours la dose de sérieux supplémentaire
il reste très professionnel quoi qu'il arrive en fait, c'est ça, c'est qu'il fait le mariole mais en fait en un quart de seconde il reprend le visage du pro et puis il loupe pas sa cible quoi, c'est ça qui est absolument hallucinant.
Ah non, ça effectivement, c'est vrai que effectivement c'est le meilleur même, c'est le meilleur dans sa catégorie. C'est vrai que souvent dans le manga on a des exemples où il tire une balle. Je crois par exemple il y a dès la première enquête qu'on a dans le manga et dans la série, il doit éliminer un boxeur qui a tué son rival pour gagner le titre poids lourd et il doit le tuer pendant son combat, mais de manière à ce qu'on pense que ce soit le boxeur adverse qui l'a tué d'un coup de poing. Et effectivement, il met la balle pile poil au bon moment. Enfin bref, on a plein de moments comme ça.
Il y a plein d'exemples quand il se tire dans la main, quand il tire entre les jambes de Kaori. Ça, c'est des moments mythiques. Mais tu vois, contrairement à certains héros qui... Voilà, ça paraît un peu redondant, ils sont toujours très forts, c'est un peu agaçant. Je sais pas, pour moi, Rio, c'est juste parce qu'il est super pro, quoi. C'est pour ça que ça me lasse pas de le voir réussir à chaque fois.
Non, on le sait, et puis il sent le personnage en lui-même, il s'en vante un peu, mais pas non plus au point de nous en dégoûter, pas au point de dire « Oh bah c'est bon, on sait très bien que t'es fort, on sait très bien que tu sais
non,
faire
ça. » Non, il est modeste en fait.
Voilà. Il reste quand même assez modeste, voilà, comme tu dis. Mmh. C'est ça qui aussi fait sa force. Dans le manga aussi, il y a un autre personnage qui fait la force du personnage, on l'a dit tout à l'heure, c'est le personnage de Kaori, donc Laura, en VF, qui est d'un support vraiment important pour lui, parce qu'elle arrive à vraiment le maintenir les pieds sur terre, à vraiment éviter qu'il parte, à souvent même parfois le sauver aussi, sans qu'il le sache forcément.
Kaori, elle a une chance incroyable parce que quand elle tire, la balle arrive toujours à être efficace, même si ça part dans tous les sens. Elle a des plans un petit peu à la mort moelleux, très très foireux, mais finalement elle s'en sort. Et en fait, pour moi, Kaori, comme les gens a priori le savent, donc elle a perdu son frère qui était vraiment le meilleur ami de Rio, oui. Et je pense qu'elle se s'accroche à Ryo comme une bouée de sauvetage. C'est vraiment son pilier, c'est vraiment voilà, sa vie tourne autour de lui. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est particulièrement jalouse, c'est que c'est sa seule famille au final.
C'est ça. Et au fur et à mesure, on commence à apercevoir plus du côté de Kaori. Enfin, moi personnellement, sur la version de Panini, j'en suis au tome 5-6. Il y en a 7 de sortie pour l'instant. Il y a le 8e qui devrait sortir à la fin du mois, il me semble. Au mois de septembre, je ne sais plus.
Ah oui, alors c'est parce que tu es en édition double. Parce que moi, en fait, j'ai les 34 tomes de la première édition.
Bon, bah, en édition double, ça doit faire au niveau du tome 14, je crois, au tome 13. Voilà, un truc.
Ouais, la moitié de la série, ouais.
Voilà, et effectivement, là, on commence à ressentir que bah, Kaori commence à se poser des questions. En mode, tiens, bon, elle est un peu moins... on sent... Alors, au début, c'est plus la femme qui va... entre guillemets, un peu punir Ryo en disant « Bon, bah, c'est bon, tu me saoules avec tes bêtises. » Et au fur et à mesure, vers là où j'en suis, bah, on s'aperçoit que c'est plus la femme un peu jalouse. Mine de rien, il y a un petit trait de jalousie qui commence à arriver. On sent que, bon, il y a peut-être quelque chose qui voilà.
Ouais, elle évolue, en fait, son personnage évolue c'est parce qu'au début, elle est très garçon manqué.
Ah bah oui, bah, d'ailleurs, il y a plein de blagues.
Oui, bien sûr, bien évidemment. Et puis après, elle assume sa féminité au fur et à mesure, un petit peu parfois pour la nécessité des enquêtes, parce que quelquefois, elle doit jouer une mannequin, jouer une femme mariée, jouer, voilà, quelquefois, elle joue l'amnésie, etc. Et justement, c'est intéressant de voir son évolution. Elle est aussi un personnage très intéressant dans son évolution.
Ça, c'est vrai que c'est un gros point fort, mais de toute façon, même en général dans l'art de Tsukasa Ojo, c'est les femmes sont un gros point fort. On va passer maintenant à l'auteur, et c'est vrai que dans toutes ses œuvres, il a fait des femmes fortes, des personnages femmes vraiment très
les
fortes.
Les Cat Size, par exemple.
Les Cat Size, voilà, tout à fait. La majorité des personnes, même pour moi, pour l'instant, la totalité même des personnages féminins de City Hunter, et même, oui, effectivement, Cat Size. J'ai pas encore lu Angel Earth, mais je pense que je vais pas tarder aussi à me lancer dedans.
Alors, c'est encore autre chose. Mais oui, la petite... Ouais, c'est autre chose. C'est plus dramatique, on va dire. Ouais. Il y a moins cette insouciance, ce côté délirant, décalé que tu trouves dans City Hunter.
Ouais.
Mais c'est peut-être voulu par l'auteur aussi, parce que vu ce qui arrive à Laura et voilà la suite des événements, évidemment on est pétrifié et voilà, il faut continuer quoi. Et c'est compliqué pour tout le monde.
C'est ça. Mais dans toutes ses œuvres, il a fait des femmes fortes. À chaque fois, on a cette impression, donc dans City Hunter, ça revient assez souvent, l'impression que c'est la jeune demoiselle en détresse, que Ryo Saeba doit sauver, voilà, il va être fort. Et au final, on s'aperçoit au fur et à mesure de l'enquête que y a une évolution du personnage qu'il doit sauver. Au départ, on passe de jeune fille en détresse qui n'arrive pas à voilà, se dépêtrer d'un problème à jeune femme forte qui peut totalement se débrouiller par elle-même. J'ai en tête le personnage qui, par exemple, est la fille d'un riche homme d'affaires où elle veut absolument travailler dans un café, sauf que le café est fréquenté par des personnes de la triade, et au fur et à mesure ça devient un peu la mascotte de ce café, et elle évolue au fur et à mesure des pages. On voit le personnage totalement évoluer et passer de petite jeune fille qui n'a jamais travaillé, voilà, à une femme forte, indépendante, qui a envie de s'imposer et qui même se libère entre guillemets de l'emprise de son père qui voulait absolument qu'elle épouse quelqu'un de sa caste sociale, etc. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, Ojo, il tape dans le mille à chaque fois.
Il fait une bonne critique sociale. Bah, souvent, toutes ces jeunes femmes, en fait, alors Ryo, ça leur sert en fait de tremplin pour continuer leur vie et puis aussi prendre conscience de leurs points forts, de leurs points faibles. Et voilà, elles s'assument en fait. Elles arrivent à s'épanouir malgré l'adversité, malgré ce qu'elles ont vécu. Lui, il les aide, voilà, puisque ce sont ses clientes. D'une façon ou d'une autre, mais effectivement, elles arrivent à s'épanouir par la suite.
Tsukasa Ojo, il a eu aussi une influence significative sur l'industrie du manga et de l'anime dans la culture populaire en général. Déjà, il a un style de dessin et un chara-design assez prononcé. Le style de dessin, il est facilement reconnaissable. Ses personnages ont des traits distinctifs, des expressions vivantes. Son travail sur les visages et les expressions faciales est vraiment parfait pour moi, c'est vraiment un mangaka. On remarque tout de suite son travail, et au fur et à mesure, entre Cat Size et City Hunter, ça a bien sûr évolué. Les corps aussi, que ce soit femmes ou hommes, plus femmes, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de corps dénudés féminins dans City Hunter. C'est vrai qu'il les fait vraiment incroyablement bien. Je veux dire, il a une
une belle plastique, mais qui est due aux années 80, parce que tu étais en legging, combi, body. Tu les vois d'ailleurs, le générique des Cat Size, ouais. elles font du fitness, et elles sont en body, et forcément elles sont faites au moule, quoi. Même à 10 ans, j'étais jalouse d'elles, quoi.
effectivement. Après, il y a aussi un mélange des genres, hein. Parce que Ojo, il est connu aussi pour sa capacité à mélanger habilement les différents genres dans ses histoires. On va passer d'un mélange un peu action, comédie, drame, voilà. Que ce soit dans Cat Size, dans Angel Earth, dans City Hunter, on va de page en page passer de l'un à l'autre. On va passer du sérieux à la comédie. Parfois même, et souvent dans City Hunter, il brise un peu ce quatrième mur, vu que le personnage va parler directement au lecteur. Par exemple, des fois, quand des blagues sont trop lourdes, on a le personnage de Ryo Saeba qui se retourne et qui fait « C'est vrai que le scénariste, disons, il a plus d'idées, là. » Enfin bref, des petites choses comme ça, ou le petit oiseau noir qui passe à chaque fois.
Ouais, le corbeau, j'adore.
Le corbeau, voilà. Mais...
dès qu'ils sont en chibi, moi je suis complètement fan de leur forme chibi, c'est trop mignon.
Et c'est ça qui est super dans cette série, c'est que d'un côté on va avoir une forme chibi, comme tu dis, et on va se marrer pendant 2-3 pages, et après, clac, les pages d'après, on reprend au sérieux et ça devient un manga. Ouais. En fait, on a l'impression qu'on passe d'un... Alors, je sais pas comment, s'il y a une caractérisation pour ça dans le manga, on passe d'un seinen humoristique à un seinen classique pour adultes, voilà.
Oui, là, en fait, il donne un tempo qui lui est propre. Il a osé faire ce mélange des genres et ça fonctionne très bien.
C'est ça. C'est vraiment un des points forts de cette série, c'est ça. C'est que de page en page, on peut passer du sérieux à la tristesse, à de l'action. Voilà, et ça c'est une très, très grosse, un très, très gros plus pour cette série. City Hunter a aussi connu un succès international, donc avec la version française de Nicky Larson, qui a vraiment fait exploser le manga en France. Ça a aidé à populariser le manga vraiment au-delà du Japon. Et ça, c'est super bien. On a la suite aussi, une sorte de continuité avec Angel Earth, la série qui se déroule dans le même univers que City Hunter. Et Joe a montré comment une suite spirituelle pouvait prolonger l'histoire d'une manière nouvelle, tout en restant dans l'esprit original de City Hunter. Toi, tu l'as lu, Angel Earth, ou pas?
Oui, je l'avais commencé, mais je ne retrouvais pas l'esprit de City Hunter. Donc, et puis, le fait de ne plus voir Laura, Kaori, j'ai eu du mal. Mm-hmm. C'était vraiment... ça m'avait fendu le cœur. Donc, j'avais eu beaucoup de mal, même voilà, si il y avait une continuité, j'avais eu du mal. Bon, voilà. Mais après, tu vois, j'ai tenté aussi City Hunter Rebirth, mais j'ai eu pareil du mal sur... c'était une réinvention, c'était osé, c'était pourquoi pas, mais se retrouver avec ce nouveau personnage dans des situations qu'on connaît chez City Hunter, bon, je n'ai pas trouvé que ça va apporter plus que ça. Par contre, le graphisme était époustouflamment bien, qui collait vachement bien à la série de base.
Oui, ça c'est vraiment, comme je le dis, comme on disait plus tôt, c'est vraiment un gros plus pour cet auteur dans ses œuvres. Alors, autre œuvre qu'il a fait aussi, on a Cat Size, bien sûr, entre 81 et 85. Donc, avant City Hunter, Ojo a créé un manga de trois sœurs qui forment un groupe d'artistes voleuses pour retrouver les œuvres d'art appartenant à leur père disparu. Série qui a été aussi adaptée en animé et qui passe d'ailleurs aussi encore sur la TNT, qui est passée au Club Dorothée. Cat Size, qui d'ailleurs a une nouvelle réédition aussi chez Panini Manga aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises, hein.
Oui, normalement.
Oui, chez Panini Manga. Donc, le tome 1 est sorti le mois dernier. J'en ai d'ailleurs parlé avec Andrea de la boutique Onino Manga dans le tout premier Ota Club. Si vous voulez aller l'écouter, n'hésitez pas. Et du coup, moi, j'avais beaucoup apprécié aussi Cat Size. Je connaissais de vue. Je m'étais aussi renseigné sur le sujet. C'est vrai qu'à la lecture, j'ai beaucoup aimé l'esprit, en fait. C'est un espèce de Ocean's Eleven version années 80, assez cocasse, avec le fiancé d'une des trois sœurs qui est justement le policier qui doit retrouver justement ce groupe des Cat Size. Voilà, tout à fait.
C'est pour faire une infiltration subtile.
Voilà, on a encore ce côté, bien sûr, bon, bah, on est dans les années 80, donc forcément, on a Quentin qui est assez macho, voilà, qui, et les sœurs qui le ridiculisent à chaque fois en lui prouvant que, bah non, malheureusement, les femmes ne sont pas faites pour faire la vaisselle, le ménage, etc., et être une gentille femme au foyer, mais elles peuvent être aussi de formidables atouts, que ce soit pour voler ou pour même pour aider la police, donc voilà.
Ouais, parce que quand tu vois Célia, elle pilote quand même l'hélicoptère assez régulièrement.
C'est ça.
Tam, elle saute régulièrement en parachute ou voilà, ou en trucs qui sont à elle, qui permettent voilà de faire du planning. Voilà, et la puce, je sais plus comment elle s'appelle, la petite dernière, elle est pas en retard. Et puis je crois qu'elle est pas mal mécano aussi. Elle fait plein d'inventions, donc ah non, elles sont pas en retard les filles. Hein.
Non, tout à fait. Et encore une fois, d'ailleurs, on retrouve la patte de Hojo dans cette caractérisation des personnages féminins très forts et très indépendants. Et ça, c'est vraiment ce qui plaît dans cette série. Ensuite, en 85, on passe donc à City Hunter jusqu'à 91. Donc, c'est la série la plus emblématique de Tsukasa Hojo. Donc Nicky Larson après en version française, mélange d'action, de comédie, de romance. Et ensuite, à partir de 2001 et jusqu'à 2010, on passe à Angel Earth, qui, comme je le disais, c'est une sorte de suite spirituelle de City Hunter que t'as, toi, de ton côté personnellement, pas trop forcément aimé, comme tu le disais, le fait que
oui,
le
personnage c'est plus de Oui, c'est ça, exactement. C'est pas par rapport voilà, au graphisme qui est excellent. Enfin, voilà. C'est que je retrouvais plus l'esprit léger, comme on disait, on pouvait trouver du sérieux dans City Hunter, mais là, c'était un peu plus plombé. On avait un Rio qui était plus effacé, plus. Voilà. Il était en demi-teinte. Donc, je sais pas, c'était. Après, j'aurais peut-être dû lire en entier pour me faire un avis complet. Mais bon, peut-être que ce sera le cas, peut-être que je m'y remettrai.
Oh bah, après, bon, d'expérience, je sais que lorsque je lis un manga sur les 3-4 premiers tomes, en général, on se fait un bon avis. Et puis c'est vrai que c'est, si on n'accroche pas, même si la fin du manga est intéressante, c'est vrai que c'est très dur de pousser vraiment jusqu'au bout, quoi.
Oui. En fait, c'est parce que je pense que je suis aussi particulièrement attachée aux aventures de City Hunter et des personnages. Par exemple, Umibozu, j'aime beaucoup. Ce grand géant qui a peur des chats et qui est finalement une crème, que Mickey en fait ce qu'elle veut et qui, voilà, qui fait le gros dur, mais finalement qui est un homme de droiture, d'honneur et qui est adorable. Il y a aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle, la commissaire aussi, qui est finalement très astucieuse et puis qui adore, comment dire, en fait, entre ses doigts, on la voit. Comment dire, manipuler Rio entre ses doigts, c'est très très drôle. Elle est très très fine.
C'est ça. En gros, moi, ce que je me plais à dire souvent, que dans City Hunter, le héros, c'est pas Ryo Saeba, mais c'est plutôt la majorité des femmes qui sont dans cette série. C'est elles qui mènent la danse vraiment, parce que Ryo, c'est le pan. En gros, c'est le pantin. Il a beau être excellent dans son domaine, c'est le meilleur, mais dès qu'il s'agit de romance et autres, il devient le pantin vraiment de ces femmes fortes et indépendantes qui encore une fois cartonnent dans ce manga.
Ben, c'est sa faiblesse en fait, et puis bon, bien sûr, elles sont très fortes à ce jeu-là, donc évidemment il se fait distancer pour, sur ce terrain-là, on va dire.
C'est ça. Nicky Larson a tellement cartonné en termes de pop culture qu'on en a même fait un live action avec Philippe Lachaud, il y a quelques années de ça maintenant. J'ai été le premier à dire que moi, personnellement, j'aime pas les adaptations de live action de manga, surtout des mangas d'années 90, encore plus de mangas que j'aime bien, parce que souvent, c'est raté, c'est pas forcément dans le même esprit, et puis surtout, maintenant, on est dans les années 2020, c'est 2010-2020, c'est pas trop évident de sortir un manga comme ça où on a un homme macho qui voilà, c'est peut-être pas forcément dans le ton de l'époque. Et pourtant, bah, pour ce coup-là, j'ai eu tort parce que le film a assez bien marché et pas mal de fans de la show et même de la série City Hunter ont dit que c'était assez bien réussi et c'était dû au fait que le scénariste en fait est un grand fan lui-même de la série City Hunter.
Oui, j'ai trouvé. Alors, moi, je l'ai pris comme une œuvre à part entière, issue du lore de City Hunter. Vraiment, Lachaud et toute son équipe, voilà, avec qui il a l'habitude de travailler, ont vraiment fait un travail de reconstitution formidable. Didier Bourdon, pareil, en antagoniste, c'était intéressant. Mais même, ils ont osé des trucs avec Pamela Anderson, qui s'est un peu moquée d'elle-même. Tous les personnages secondaires, c'était très drôle. La Laura, elle était vraiment très très réussi. Non, vraiment, je me suis fait plaisir. C'était impertinent au possible. Son mammouth aussi, il était très réussi. Non, vraiment, c'était impertinent. Ouais, c'était impertinent et bien fait. Et la scène, par exemple, où il tire entre les jambes de Laura, a été vraiment vraiment bien refaite. Non, pour moi, j'ai apprécié cette version là. Alors, je te dirais pas que ça marcherait à tous les coups, puisque nous avons voilà, je peux peut-être avoir peut-être plus d'appréhension sur la version des Cat Size qui va arriver et qui sera jouée par des actrices françaises. Ils vont mettre beaucoup d'argent dedans. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'irai la voir pour me faire mon idée. Mais par contre, j'appréhende peut-être le fait, parce que Lachaud, c'est Lachaud. Et voilà, on peut se lancer dans son univers, même si c'est issu de City Hunter. Si c'est pas Lachaud, je sais pas trop ce que ça peut donner. J'attends de voir.
Ça va peut-être être un film un peu plus sérieux. Je pense qu'il faudra vraiment peut-être le déconnecter. Moi, c'est ce que je fais en général avec les live action manga. Voilà, je le déconnecte du lore en général. Et en fonction de ce que j'en ai pensé, je le reconnecte ou pas dans ma tête. Je me dis, effectivement, là, c'est bien. Par exemple, un exemple assez récent, Les Chevaliers du Zodiac. J'adore Les Chevaliers du Zodiac. Je suis un grand fan de ce manga. Mais le film qu'ils en ont fait, pour moi, c'est juste... Non, c'était juste pas possible. Et dès les premières bandes annonces...
Il était très américanisé, en fait. Voilà. C'est pas du tout l'esprit.
Et du coup, ce qui soulage, c'est de le prendre hors du lore... Et vraiment de le prendre pour un film indépendant totalement à part. Et pour un film indépendant totalement à part, effectivement, c'est du film, c'est du blockbuster, quoi. Il y a des explosions partout, etc. Effectivement, c'est mauvais. Ça reste mauvais, mais c'est mieux que ce que. Ah, j'étais fou devant ma télé. J'étais comme un dingue, je regardais, je faisais non, c'est pas possible, ils ont pas pu faire ça, c'est incroyable.
Je crois que ça a donné des aigreurs d'estomac à pas mal de fans de Saint Seiya.
Ah bah oui, mais là c'était dès le début, dès les premières images, on savait très bien.
Ça.
Autant par exemple, j'espère me tromper par exemple sur la série One Piece sur Netflix, je fais partie des personnes qui disent que malheureusement, bon. Il y a des bonnes choses, mais il y a plus de mauvaises choses. À mon avis, on va plus tomber dans du nanar qu'autre chose. Mmh. Et comme d'habitude, la réaction sur les réseaux sociaux, c'est « mais non, faut attendre, faut voir, ça va être super ». Donc, comme prévu, j'attends de voir, mais c'est vrai que bon, on a une petite impréhension parce qu'on se dit « bon, bien souvent, ça ressemble plus à des web-séries qui ont été faites par des cosplayers qu'à une vraie série ». Donc bon, faut voir ce que ça donne.
C'est ça. C'est la même chose pour Cat Size. Je voudrais qu'ils gardent cette légèreté, cette impertinence, qu'ils n'en fassent pas du wokisme non plus. Enfin, tu vois, attention, il faut qu'ils restent vraiment dans l'esprit de la série, au moins de l'animé des années 80. Voilà, mais je ne suis pas du tout sûre de retrouver cet esprit-là. J'appréhende un petit peu.
On croise les doigts. Bon, ça... Mmh. Ça peut être intéressant quand même, hein. On salue quand même le fait de le faire en live action. C'est vrai que ça fait partie des mangas comme ça qui peuvent être adaptés en live action
sans problème. Tout à fait réalisable, bien sûr, exactement.
Tout à fait réalisable. On a vu des choses un peu plus folles être réalisées sans trop de problèmes. Donc je pense que ce soit ça ou Nicky Larson, c'était réalisable en live action. Maintenant, comme tu dis, il faut retrouver l'esprit du manga, de la série animée. Il faut retrouver cet esprit-là. Il faut, je pense, aussi savoir le remixer avec son temps. Parce que bon, c'est un manga des années 80, donc dans les années 80, on n'avait pas les mêmes manières de penser. Donc je pense qu'il faut aussi avoir un travail dessus, peut-être, pour qu'il marche aujourd'hui. Hein. Tout simplement. Ouais. C'est un travail pas forcément évident. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sort au cinéma.
Je ne saurais pas te dire, je crois qu'ils sont déjà en cours de tournage. Mais après, te dire quand il sort, peut-être en 2024.
Ouais, sûrement. Je pense aussi.
Le casting a été révélé. Alors, je crois qu'il y a Camille Hulot qui est dedans.
Alors, mais les deux autres, le tournage commence cet automne.
Ah, c'est seulement cet automne. Bon, bah alors, ils sont en pré-production, alors.
C'est ça, le tournage commence cet automne. C'est réalisé par Alexandre Laurent, qui a notamment travaillé sur Les Combattantes et Le Bazar de la Charité.
Ah oui, c'était très bon, ça.
Assez excellente, ouais, tout à fait.
Ouais,
et donc,
très bon.
il passera derrière la caméra pour réaliser donc 8 épisodes de 52 minutes, donc sur Cat Size. Donc, autant pour moi, d'accord. Je disais au cinéma, mais non, à la télé plutôt.
Oui, mais tu vois, il y a une différence avec le film de La Chaux, puisque La Chaux, c'était un long métrage. Et là, pour le coup, ils partent sur un format série.
Justement, ce qui peut être plus intéressant, le temps de poser les intrigues, je pense que ça peut être, peut être beaucoup plus intéressant, justement, pour histoire de bien poser le scénario. Ça peut être sympa. À voir, affaire à suivre. En tout cas, le tournage commencera donc en automne 2023. Dernière question avant de terminer ce podcast. Quel a été pour toi le meilleur moment de ce manga City Hunter? Quel est pour toi ton moment doudou de ce manga?
Le moment, oh là là, ça, c'est difficile. Alors attends, parce que évidemment, je fais un mélange entre l'animé et la version papier. Peut-être quand Umi Bozu perd la vue et qu'ils font un duel à mort. Et que finalement, bah, c'est vraiment deux hommes d'honneur. Et finalement, c'est l'amitié qui triomphe, quoi qu'il arrive. C'était un beau moment.
Le fameux pouvoir de l'amitié.
C'est ça.
Encore c'est ça. Et toujours.
Les valeurs du manga. Les valeurs du shonen.
Les valeurs du manga, les valeurs du shonen. On retrouve ça aussi dans le comics, dans la bande dessinée. On retrouve les valeurs du pouvoir de l'amitié un peu partout. Effectivement. Parfois, c'est un peu lourd, mais souvent, c'est bien réussi.
Ouais, mais non, c'est vrai que c'est bien mis en scène, en tout cas, par Tsukasa Ojo, parce qu'on se dit, ouais, ils vont vraiment se canarder l'un l'autre, là, c'est mal barré, il y a Laura qui a plus un poil de sec, elle se dit, merde, je vais perdre Ryo, mais j'aime bien Umi Bozu aussi, putain, ils vont pas se canarder l'un l'autre, et puis finalement, tout se passe bien.
Dans quel style t'aimerais bien voir Ojo raconter une nouvelle histoire? Quel serait pour toi le meilleur style pour lui?
C'est intéressant parce que en fait, il avait fait des one shot. Je crois que ça s'appelle comme le temps du cerisier.
Tout à fait. Oui, le temps des cerisiers.
Là, ils sont en train de ressortir d'ailleurs. Hein. C'est une histoire courte, etc. Il est capable de pas mal de choses, mais alors après, pour un nouveau lore, je saurais pas te dire. Je crois que je lui laisse carte blanche et je le laisse me surprendre.
Ouais. Parce que c'est vrai qu'autant, par exemple, Tetsuo Hara, par exemple, qui a fait Okuto no Ken, on sait très bien que lui, il est parfaitement doué dans tout ce qui est historique, un peu post-apocalyptique, donc on a du mal à le voir, par exemple, dans un autre style.
Bon, après, donc, il a fait Keiichi aussi, qui était pas mal fait aussi.
Oui, bien sûr.
Samurai.
Mais justement, c'est ce que je disais par rapport au lore historique. Après, c'est vrai que Ojo, je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai qu'on peut lui laisser carte blanche, n'importe quel style... lui irait parfaitement. C'est vrai qu'il n'a pas un style à proprement parler qui lui colle à la peau.
Mais je pense que comme c'était quelqu'un déjà de très indépendant, je pense qu'il est capable de sortir quelque chose qui lui fait vraiment envie. Je pense qu'à son âge, il a plus rien à prouver et de faire vraiment en fait qu'un truc qui lui fasse plaisir. Oui, l'historique, mais je suis pas sûre que ce soit sa tasse de thé. Je peut-être, pourquoi pas, quelque chose autour de l'espace ou du futur, parce que finalement, il y avait des petits indices qui ressortaient au travers de ces séries, parfois un petit peu la modernité, voilà, mais dans laquelle on se projetait dans les années 80-90, un petit peu le futur, hein, l'an 2000, 2020, 2030, 2060, et pourquoi pas justement faire. Un lien avec ça et une nouvelle aventure dans le futur ou dans l'espace, pourquoi pas.
C'est vrai que ce serait intéressant de le voir dans ce domaine-là, effectivement, une espèce de Space Brother version Tsukasa Ojo.
Un Space Opera.
Space Opera, ouais, ça peut être sympa, effectivement. Maintenant que tu le dis, oulala, donc Tsukasa, si tu nous entends, Space Opera, ce serait, s'il te plaît, avant 2024, ce serait cool. Voilà. Ça te laisse pas beaucoup de temps, mais au moins, nous, ça nous éclaterait bien.
Ou au moins un one-shot, alors, dans ce cas-là.
Au moins un one-shot, histoire de commencer, histoire de nous mettre l'eau à la bouche, et puis voilà.
Ça.
Belle Ambule, merci beaucoup d'être venue dans ce podcast et merci d'être la marraine de cette saison 2.
Wow, je suis très honorée et merci à toi.
Eh ben de rien, c'est tout à fait normal. J'espère que vous avez apprécié nous entendre parler de City Hunter, donc, qui est une série, comme on dit, tout à fait complète, si vous voulez, de l'humour, de l'action, de la romance, de l'humour grivois, voilà, du quatrième mur brisé. Foncez, et si vous n'aimez pas le style City Hunter, Tsukasa Ojo a d'autres styles, bien sûr, comme on l'a dit, il y a des one-shots qui sont en train de ressortir actuellement, qui sont
très bien travaillés. Ouais, sur le parce que c'est un bon conteur au niveau critique sociétale et familiale aussi, des histoires familiales très touchantes.
Tout à fait, tout à fait. Donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller tête baissée. Vous pourrez aller aussi tête baissée sur le compte YouTube et TikTok et Instagram de Belle Ambule. N'hésitez pas à vous abonner et à tout simplement suivre aussi ces sketchs et ces différentes reviews manga. Vous allez voir, c'est assez drôle et divertissant et rafraîchissant aussi.
Merci.
Quant à moi, je vous dis au mois prochain pour un nouveau manga qui aura illuminé mon enfance et ma vie adulte. Je vous invite à venir sur le Discord du collectif de l'Imaginaire, le collectif où les podcasts de Pili Manga y sont, mais vous retrouverez aussi les podcasts de Case en Case, Ohio Podcast, YPDLM, etc. Donc n'hésitez pas à venir pour parler manga sur le Discord. On vous recevra avec plaisir et venez là-bas, on rigole bien. N'hésitez pas aussi à commenter et à noter cet épisode. Ça fait toujours plaisir quand on reçoit des critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En tout cas, on essaye d'en prendre note à chaque fois. Je vous dis au mois prochain et surtout, continuez de lire des mangas parce que les mangas, c'est la vie. Salut.
Salut.